Mercredi, ça va être une super de belle journée, plein de lumière, amenaisant des projets. Un moins 8 degrés actuellement, mais on pourrait monter jusqu'à 4 degrés sur l'heure du midi. Peut-être des petites rafales à 40 km/h en mi-journée, maximum de plus 4 degrés. Donc ce soir, cette nuit, partiellement nuageux, minimum de moins 8 degrés. Demain, jeudi, jour de paye, alternance de soleil et nuages avec des rafales à 50 km/h en mi-journée, maximum de 11 degrés. Vendredi, de la pluie, maximum de 8 et je complète. Alternance de soleil et nuages pour samedi, avec un maximum de 7 degrés. Et dimanche, ce sera ensoleillé avec un maximum de 10. Donc, j'imagine qu'il y aura bien du monde à Cabane à sucre en fin de semaine. As-tu été à Cabane à sucre, toi?
Non, pas encore. Non, c'est jeudi prochain, nous, avec le Club Social. Je ne sais pas si tu l'as venu.
Toi, c'est jeudi. Non, moi, je vais à Cabane à sucre avec mon chum Labarge.
Ah.
C'est mon Labarge qui m'a invité à Cabane à sucre.
Fait que tu n'auras pas à payer, tu n'auras pas à réhypothéquer.
Ben quand c'est pas cher, j'y vais tout le temps.
Fait que quand tu te fais inviter.
Exactement.
C'est un bon truc.
Puis là, j'ai dit, je peux-tu amener mes enfants? Il faut bien les nourrir, ces enfants-là. Il a dit, oh, oui. Fait que je m'en vais à Cabane à sucre.
Avec le nombre de maisons qui vend. Hein?
Oui, c'est ça. Exact, exact, exact. OK. Merci, Max. À tantôt. Mon ami, on t'écoute à 10h. Notre ami Nicolas Gagnon, qui est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables, est au bout du fil. Salut, Nick.
Salut, ça va bien?
Problème d'Internet à Laval ce matin?
Oui, petit problème qui arrive comme ça, mais c'est surtout que je sais pas ce qui s'est passé, une mise à jour ou je sais pas, fait que j'attends des nouvelles, fait que je dirais pas c'est qui mon fournisseur, mais ça se peut qu'il possède un centre dans le coin de Québec, là, un centre sportif, fait que j'en dirais pas plus, mais j'ai hâte que ça soit rétabli.
Bon, ben on va lancer un message à Pierre-Carl Péladeau. Secteur Laval, il y a une petite panne actuellement. Hey, ouais. Nicolas Gagnon, on parle de plus en plus au fédéral, ben c'est surtout le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, qui veut suspendre toutes les taxes sur l'essence actuellement. Ça représenterait quoi comme coût? Puis est-ce que c'est possible pour un gouvernement de se passer de ce revenu de taxes-là?
C'est une bonne question. Pour l'instant, au niveau du coût, on parle quand même d'une réduction des taxes sur l'essence qui est proposée d'environ 25 cents par litre d'essence, parce qu'il parle essentiellement de retirer ou plutôt de suspendre l'ensemble des taxes fédérales sur l'essence. Donc, pour l'instant, on parle d'environ trois taxes qu'on paye de notre côté. Donc, on a une taxe d'assise fédérale de 10 cents. On a aussi la TPS et on a aussi ce qu'on appelle souvent la deuxième taxe carbone. Donc, c'est un règlement sur les carburants propres qui est intégré au prix de l'essence, qui rajoute pas loin de 7 cents par litre d'essence. Donc, au total, tout ça mis ensemble, c'est environ 25 cents. Quand on regarde, par exemple, ce que ça couperait en termes de revenus au gouvernement fédéral, on parle, je pense, d'environ 600 millions de dollars par mois, donc c'est quand même significatif. C'est aussi beaucoup d'argent qui resterait dans les poches des contribuables, des automobilistes, surtout dans un contexte où est-ce que les prix de l'essence ont quand même augmenté drastiquement. Je sais bien beau de dire qu'hier, bon, il y a un cessez-le-feu qui a été négocié, peut-être accepté, ne serait-ce que par rapport au conflit au Moyen-Orient qui explique en bonne partie l'explosion des prix de l'essence. Mais il faut quand même pas prendre pour acquis non plus que l'essence, ou du moins le prix, va redescendre drastiquement du jour au lendemain. Il y a eu quand même beaucoup de destruction dans la région. Donc, veux pas, ça se peut que ça prenne du temps avant que les prix de l'essence à la grandeur de la planète se stabilisent. Donc, d'ici ce temps-là, ça serait bien d'avoir un allègement. Maintenant, on dit souvent, ben là, le gouvernement fédéral peut pas se passer de ces revenus-là parce qu'il y a des déficits majeurs. On le répétera jamais assez. Tant à Québec qu'à Ottawa, on est dans le rouge solide. Mais il n'en reste que le gouvernement a quand même la marge de manœuvre à condition qu'il fasse le ménage de l'autre côté. On manque pas de choses à couper au fédéral. Ne serait-ce que dans les consultants à la fonction publique ou sinon carrément dans les subventions aux entreprises ou dans des projets un petit peu trop dispendieux. Mais il en reste que la marge est là. Il manque juste d'avoir le courage politique pour aller de l'avant.
Est-ce que ça s'est déjà fait dans l'histoire de suspendre une taxe temporairement?
Au Québec, ou plutôt au Canada, pas vraiment. Du moins, comme ça, en tête, au niveau fédéral, j'ai pas vu de suspension récemment. On se souvient, par exemple, de la fin de la taxe carbone pour les consommateurs l'année dernière, là, en avril 2025. Donc, ça, c'est pas une suspension, c'est carrément une abolition. Il y a aussi plusieurs pays européens présentement, là, donc on parle entre autres là, de l'Italie, l'Espagne, le Portugal et autres qui commencent à signer des décrets ou carrément à suspendre temporairement les taxes dans leur propre juridiction, justement pour protéger le portefeuille de leurs contribuables. Donc, on a quand même une liste importante de pays en Europe là, qui vont dans cette direction-là. Maintenant, au niveau canadien, on a eu des provinces qui l'ont fait au cours des dernières années. surtout avec le dernier choc pétrolier en 2022. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas encore là, de provinces qui vont de l'avant pour l'instant.
Parfait. Nicolas Lachance, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, ce matin, nous pond un texte qui est quand même intéressant. C'est le gouvernement du Québec qui souhaite créer une société informatique avec CGI pour réduire sa dépendance aux géants du web pour ses prochains coûteux projets numériques. On dit que c'est un projet qui est assez ambitieux et ça pourrait toutefois concentrer une part importante des contrats publics entre les mains d'un seul joueur. C'est-tu une bonne idée de créer un semi-monopole?
Non, c'est pas posé la question.
Okay. Mais si toi, moi, Jeff, on est d'accord avec ça. Puis je pense que la plupart des auditeurs étaient
peu. Ben oui, voyons donc.
Tu crées un monopole, c'est jamais une bonne idée.
On essaye de se débarrasser du monopole de la SAC.
Pourquoi le gouvernement y pense?
Ben pourquoi ils pensent? C'est une bonne question. Ben, je sais pas. On dirait que c'est peut-être qu'ils veulent opposer un monopole public à un semi-monopole privé, parce que dans les deux cas, c'est vrai que quand le gouvernement québécois il se tourne d'abord pour aller demander aux entreprises privées de lui faire des projets informatiques, le nombre d'entreprises qui peuvent fournir sont quand même relativement limités au Québec. On parlait souvent de SAP, ou on parlait sinon de SGS, ou sinon ben c'est CGI, mais ou IBM, mais en fait IBM c'est SAP. Donc au final, on n'a pas beaucoup de gros joueurs. Donc d'une part, c'est sûr que ça fait en sorte qu'on n'est pas surpris par la suite de voir les coûts exploser au fait qu'on a peu de compétition dans ce domaine-là pour les appels d'offres. Mais de l'autre côté, si on se met à donner tous les contrats informatiques ou une grande partie d'entre eux à une société, ne serait-ce que qui sera un genre de monopole public, donc entre une entente entre le gouvernement québécois et CGI, à la fin de la journée, on risque de retrouver le même type de distorsion. Je connais pas les pratiques de CGI, puis je veux pas faire d'accusation non plus, mais le point est que on veut pas se retrouver avec un gouvernement ou plutôt une entité qui a le monopole sur les 1000 projets informatiques du gouvernement du Québec. Dans tous les cas, je pense que c'est une très mauvaise décision. Et pour être très honnête, je comprends même pas pourquoi est-ce que le gouvernement va dans cette direction-là présentement. Là, on est à quelques mois des élections, puis là, on se lance encore dans ce genre de gros projet de grandeur où est-ce qu'on dit qu'on va redéfinir les règles au Québec en ce qui a trait aux projets informatiques, on va redéfinir tout ça, puis finalement, bon, je veux dire, est-ce que ça va tenir jusqu'en automne ou est-ce que la pause va être complètement différente avec le prochain gouvernement? C'est quand même aussi surprenant parce que là, en ce moment, on a une CAQ qui est un peu ce qu'on appelle un lame duck government, là. C'est-à-dire que on est en fin de régime, on est vraiment en queue de peloton pour les sondages, et on se met à faire des projets aussi ambitieux qui, pour l'instant, on n'est même pas sûr de savoir ce que ça va donner au final. Est-ce qu'on va vraiment économiser de l'argent? Est-ce qu'on va vraiment sauver du temps sur les projets informatiques ou avoir plus de transparence? Malheureusement, j'ai des gros doutes pour tout ça.
Tu sais, t'as une rigueur, puis t'es dans le factuel, Nick, mais moi, je suis dans l'hypothétique, là. Puis je le sais que c'est jamais arrivé, là, mais je fais pas confiance à aucun politicien. T'sais, j'ai tout le temps de méfiance à leur égard. Puis là, on me dit qu'on veut créer une entreprise avec CGI qui va être semi-gouvernementale, semi-privée. Qu'est-ce qui va empêcher cette entreprise-là de faire des dépassements de coûts à n'en plus finir quand le dépassement de coûts fait bénéficier le gouvernement puis là, les actionnaires de cette entreprise-là? Qu'est-ce qui va les empêcher de faire des dépassements de coûts, Nick? T'sais, une fois que la porte est ouverte, là, ils ont le gros jeu. Là. Écoute, il y a des dépassements de coûts dans le privé, fait qu'il peut en avoir aussi dans le semi-privé. Puis là, ben, c'est le gouvernement qui va en bénéficier. Donc, ils vont pomper l'argent des Québécois d'une autre façon, tout simplement.
Ben, c'est exactement parce que tu as mis le doigt sur le bobo. C'est carrément ça. C'est la notion de conflit d'intérêts à venir. Puis comment est-ce qu'on pourrait empêcher ça d'avoir lieu alors que le gouvernement est à la fois client et propriétaire des projets informatiques. Donc, ça n'a ni queue ni tête, pour être bien honnête. Et oui, c'est clair que ça peut emmener éventuellement à ce genre de controverse-là où est-ce que on aurait des dépassements de coûts phénoménales, mais en même temps, ben, tout est entre les mains d'un seul joueur. Donc, on voit déjà ça aller un peu au Québec, là, c'est-à-dire, par exemple, pour le système de santé, on a essayé, par exemple, de déresponsabiliser une partie du ministère de la Santé en créant une agence de santé Québec. Puis là, ben, c'est comme si toutes les décisions passent par là. Donc, maintenant, il y a beaucoup moins d'accessibilité et de transparence au niveau du ministère lui-même. Mais là, on risque d'avoir peut-être la même chose. Là. Donc, ministère de la cybersécurité et du numérique va se retrouver être un peu genre le bureau qui va contrôler tous ces projets-là à travers cette nouvelle entité. Mais on peut s'attendre à ce qu'effectivement, il y a un gros manque de transparence qui va découler par la suite.
Mais tu comprends, Jeff, mon point? Supposons qu'il y a un dépassement de coût d'un milliard là, pour l'entreprise semi-gouvernementale. Dépassement de coût d'un milliard. On prend l'argent des Québécois, puis ben, il y a un dépassement de coût, fait qu'il faut le payer.
Ce ne sera pas CGI qui va le payer.
Les bénéfices vont aller où? Ils vont aller d'un bord aux actionnaires de CGI à 49 % puis de l'autre bord au gouvernement du Québec à 51 %
Oui, c'est ça. Mais les dépassements de coûts vont tous aller au gouvernement.
Exact. Puis là, ça coûte cher.
Les contribuables vont payer cher, mais les profits vont aller au privé directement.
Nick, ça n'aurait pas été plus facile juste de prendre les recommandations du juge Galland puis de les mettre en application?
Oui, ça a été possiblement plus facile de juste faire ça. Mais comme je dis, le gouvernement dirait qu'en ce moment, il se lance plutôt dans un genre de projet de grandeur en voulant changer les règles du jeu, plutôt que justement pas changer les règles, mais carrément d'appliquer les recommandations qui ont été mises de l'avant. Puis on s'entend que pour le peu de temps qu'ils ont encore au pouvoir, c'est un peu difficile de tout appliquer ça maintenant. Mais il n'en reste que, effectivement, on n'a pas du tout la bonne approche, puis ça risque de créer davantage de conflits d'intérêts dans le futur. Donc, je vois vraiment pas pourquoi le gouvernement s'aventure là-dedans, à ce niveau-là. Surtout que, tu sais, il y a juste CGI. C'est pas comme s'il y avait non plus 150 autres compagnies qui pouvaient compétitionner ou est-ce qu'on pouvait faire un genre de consortium ou autre. Non, là, c'est extrêmement limité au nombre de joueurs qu'on a dans le domaine informatique au Québec. Donc, je m'attends à aucune bonne nouvelle qui va découler de ça dans le futur. Fait que oui, je pense que appliquer les recommandations de la commission Galland, ça aurait été la priorité, mais ce gouvernement-là, il rêve encore, même malgré tous les sondages, malgré tout ce qui se passe au niveau du gouvernement depuis plusieurs années à ce stade.
Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. On s'en va maintenant au fédéral. On se pose des questions sur les liens entre Mark Carney et son ancienne entreprise où il était actionnaire. D'ailleurs, il serait toujours actionnaire de cette entreprise-là. C'est juste qu'il n'y a pas son mot à dire à ce qu'on nous mentionne. Et l'autre, une enquête publique sur François-Philippe Champagne. Je ne sais pas si ça a été réclamé par le Parti conservateur du Canada, mais François-Philippe Champagne, sa conjointe aurait des intérêts dans Alto, qui est le gestionnaire du fameux TGV?
Oui, exact. Bon, on a appris ça quand même au coin des derniers jours. Essentiellement, la conjointe du ministre Champagne, son nom c'est Anne-Marie Gaudet, elle occupe depuis août 2025 le poste de vice-présidente environnement chez Alto. Et donc, on s'entend que ça peut créer peut-être un certain conflit d'intérêt parce que c'est une société d'État fédéral qui reçoit beaucoup de financement du gouvernement fédéral comme tel. Puis justement, en septembre 2025, quelques semaines avant le dépôt du budget fédéral, le ministre Champagne a envoyé une lettre confidentielle au premier ministre Carney, justement pour se récuser de tout dossier lié à Alto. Donc essentiellement pour indiquer que effectivement, il reconnaît qu'il serait peut-être en conflit d'intérêts si il devait gérer un quelconque dossier qui touche la compagnie qui va être en charge du TGV. Mais la lettre avait jamais été rendue publique, donc c'est quand même assez particulier qu'on apprend son existence maintenant. Et ce qui est assez particulier, c'est que malgré tout, François-Philippe Champagne a quand même fait passer la loi C-15. La loi C-15, c'est la loi budgétaire essentiellement, qui a accordé pas loin de 600 millions de dollars de plus au projet de TGV, dont on estime que ça va coûter environ 90 milliards, mais honnêtement, retenez pas votre souffle parce que ça risque de coûter beaucoup plus que ça au final. Mais il n'en reste que oui, il y a quand même une odeur, encore une fois, de conflit d'intérêt, cette fois-ci, qui touche le projet de TGV. Bien sûr, je pense pas que, en tout respect, là, je pense pas qu'il y a vraiment d'implication où est-ce que François-Philippe Champagne est vraiment en conflit d'intérêt dans le sens où est-ce qu'il y a une mauvaise foi là-dedans ou autre. C'est pas pour le défendre ou autre, mais il n'en reste que, pour l'instant, c'est plus une apparence de conflit d'intérêt. Donc, c'est surtout là-dessus là, qu'il y a beaucoup, le Parti conservateur et le Bloc québécois semblent être préoccupés, avec raison, parce qu'au final, je pense que pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui, c'est un conflit d'intérêt, mais au-delà de tout ça, il y a quand même le projet de TGV lui-même qui est extrêmement coûteux et que plus ça va aller, plus on risque de découvrir que c'est pas aussi populaire auprès des populations qui vont être affectées par ce projet-là ou les différentes parties prenantes. Il y a déjà tout un branle-bas de combat là, par rapport aux expropriations dans certaines régions, dont Mirabel, où est-ce qu'un des premiers tronçons du projet va passer. Donc, il n'en reste que c'est un projet là, qui va encore faire parler longtemps. Et comme je disais, je parlais de dépassement de coûts tantôt, là, présentement, pour le TGV, on parle de 90 milliards, mais je suis allé réviser rapidement les chiffres qui concernent l'autre projet de TGV qui a lieu en Amérique du Nord, entre San Francisco et Los Angeles. Et dites-vous que pour une une distance plus courte qu'il y a entre Québec et Toronto. Le projet, là, il est passé d'environ 33 milliards d'estimation de coût en 2008. Là, présentement, on est rendu à 126 milliards. Donc, je me dis qu'il faut pas s'attendre à quelque chose de très, très différent au niveau pan-canadien, si jamais on va de l'avant avec le projet de TGV. Donc, oui, il y a un conflit d'intérêt présentement, mais je pense que c'est il y a un problème beaucoup plus large qui touche ce projet-là.
Et pour ce qui est de Mark Carney maintenant, pour ses possibles conflits d'intérêt, le Parti conservateur travaille très fort, entre autres Gabriel Hardy, qu'on connaît bien ici dans l'est du Québec. Gab, qui vient faire son tour une fois de temps en temps à station, travaille beaucoup sur justement sortir l'information sur Mark Carney, ses allées et venues, avec des fois son ancienne entreprise qui se promène aussi un peu dans le monde, qui obtient certains contrats.
Ben c'est ça, il y a quand même tout un il faut se poser des questions souvent là, quand on voit qu'une entreprise elle multiplie les contrôles au fur et à mesure qu'il y a des discours du premier ministre, surtout si ce même premier ministre était anciennement dirigeant de cette même entreprise. Donc c'est un peu ce qui est observé à chaque fois que Mark Carney fait une visite diplomatique dans un pays, ne serait-ce que l'Inde ou autre. On observe par la suite que Brookfield est en mesure de tirer son épingle du jeu assez facilement, ce qui fait sourciller plusieurs avec raison, parce que justement, comment ça se fait que ces entreprises-là sont en mesure de décrocher des contrats aussi rapidement, ne serait-ce qu'après le passage de Mark Carney ou la réouverture de nouvelles ententes commerciales? Oui, d'une part, bon, je dis que quand Mark Carney se déplace à l'étranger puis règle des contentieux commerciaux comme celui qu'on avait avec l'Inde depuis plusieurs années, là, qui méritait d'être réglé.
Ouais.
Il n'en reste qu'il y a quand même une problématique un peu plus importante à souligner là-dessus. Puis il faut dire que le gouvernement fédéral s'est engagé à faire des dépenses assez massives en termes de dépenses, de défense, pardon, au cours des prochaines années. On parle de dizaines de milliards de contrats publics qui vont être octroyés, entre autres, à des entreprises comme Brookfield. Donc, c'est drôle que les nouvelles orientations du gouvernement fédéral soient aussi profitables, pour une entreprise qui a été dirigée auparavant par l'ancien premier ministre. Donc, oui, il faut quand même se poser des questions maintenant. Est-ce que c'est apparence de conflit d'intérêts ou il y en a vraiment? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, mais
j'ai lu les 16 pages là, qui sont disponibles d'ailleurs sur le site Facebook de Gabriel Hardy, là, le lien, où vous pouvez aller directement sur le site web de Gabriel Hardy. C'est gabrielhardy.ca. 16 pages de faits sur les conflits d'intérêts de Mark Carney. Tu parlais de l'Inde, là, mais on peut ajouter la Norvège. 1,5 milliard de dollars qui ont été annoncés dans le fonds de transition de Brookfield. Et qu'est-ce qui est arrivé quelques jours plus tard? Coucou! Une petite visite officielle de Mark Carney en Norvège. Tu sais, il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette situation-là. Puis moi, je salue le Parti conservateur du Canada de surveiller le PM. Ils sont tous à surveiller, en fait, là.
Oui, absolument. Il y avait une chose, une préoccupation que je partage avec toi, Yannick, là-dessus, c'est que je ne truste pas bien bête politicien. En fait, si j'en truste un, faut le trouver. Mais quoi que, bon, il y en a qui font effectivement un bon travail. Là, je vais souligner celui de M. Hardy là-dessus. Mais oui, effectivement, faut garder un œil sur nos politiciens, pas à peu près, surtout quand ils sont en position de pouvoir, surtout quand, par un peu hasard, ils sont anciens PDG d'une entreprise qui semble tirer leur épingle du jeu de contrat public. Donc oui, d'une part, bon, je veux dire, peut-être que l'entreprise joue les règles du jeu en bonne et due forme, mais il y a quand même des raisons de se poser des questions puis d'aller au fond des choses.
Toujours un plaisir, Nick. Merci, on se reparle la semaine prochaine.
C'est toujours un plaisir, à bientôt.
Bye-bye. L'exceptionnel Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. On va faire une courte pause, il est 8h54. Après la pause, on va voir notre spécialiste de l'essence, du pétrole, qui sera avec nous autres, M. Clich, qu'on aime bien. Vous avez des questions pour lui par rapport au prix de l'essence, au coût actuel? Ben, vous pouvez nous les texter, on va lui poser ces questions-là. 418-971-1021, 418-971-1021. 8h54, on vient.
Pour nous informer de